Bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être là ce soir. Donc cette rencontre est organisée dans le cadre de la troisième édition du festival de tango organisé donc par Bordeaux Cité Tango. Lors de ce festival, bien sûr, nous tenons à mettre en avant la musique, la danse, mais nous avons aussi à cœur de faire des liens avec le cinéma et la littérature, l'écriture. C'est dans ce cadre-là donc, que nous accueillons ce soir Eduardo Berti.
Bonsoir.
Qui est donc un écrivain argentin et qui m'a confié tout à l'heure être tombé amoureux de la ville de Bordeaux.
Oui.
Voilà, c'est vrai. Donc on va, je vais le laisser se présenter, puis on verra après.
Bon, bonsoir, je suis argentin, je suis né à Buenos Aires. J'ai grandi à Buenos Aires jusqu'à l'âge de 30 et quelques. Et je suis venu en France, j'ai vécu un temps à Paris. Après, j'ai vécu un temps à Madrid. Et maintenant, je suis à Bordeaux. C'est vrai que je suis amoureux de la ville parce que j'habite la ville maintenant, voilà, depuis un temps. Et voilà, j'écris en espagnol pour l'instant, majoritairement j'écris en espagnol. Je commence à écrire de temps en temps en français, mais je pense que ce sont des choses qui doivent arriver naturellement, qu'il ne faut pas pousser. Merci. Et, ouais. Et surtout, il faut faire si on trouve les mots. Si on a besoin de quelqu'un qui nous aide, ça va être compliqué pour écrire en français. Et j'écris des romans, j'écris des nouvelles, j'écris aussi une forme de nouvelle très courte qui s'appelle micro-nouvelle ou micro-fiction. Et avant, surtout, quand j'étais très très jeune, en Argentine, je faisais du journalisme. J'ai travaillé 5 ou 6 ans dans un journal qui existe encore, qui s'appelle Página 12, qui était un peu la libération de l'Argentine, si on peut dire comme ça, un journal indépendant, assez jeune, qui avait un style plus informel, une façon différente de faire du journalisme. Et à cette époque-là, fin des années 80, je travaillais surtout dans les pages de culture et spectacle. Et surtout, ma rubrique, c'était un peu musique populaire. Et voilà, et là, j'ai tissé quelques liens. À partir de ce moment-là, surtout, j'ai commencé à tisser quelques liens avec le tango et l'univers du tango. Et voilà, j'ai dit que j'écris en français, mais j'ai la chance d'être traduit en... J'écris en espagnol, mais j'ai la chance d'être traduit en français. Et surtout, la chance d'avoir un traducteur qui est un complice, qui a traduit presque la totalité de mes livres. Et je pense que ça, c'est important d'avoir un traducteur qui suit l'œuvre d'un écrivain, qui le connaît, surtout si les choses se passent bien, si l'écrivain est content des résultats, dans les cas où il peut le mesurer, s'il parle la langue. Et je pense que c'est bien de continuer avec les binômes écrivain-traducteur. Et dans ce cas-là, la presque totalité de mes livres ont été traduits par lui, par Jean-Marie Sanloup. Et je pense que la meilleure des choses que je peux dire, c'est que je me reconnais dans sa traduction. Et ça, c'est déjà difficile parfois. Ouais.
Eduardo, est-ce que vous pourriez un petit peu développer votre expérience par rapport au tango, quand vous disiez que vous avez eu donc cette expérience journalistique? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quel était votre rapport au tango à cette époque?
Alors, Moi, je suis né dans les années 60 en Argentine et j'ai grandi, j'ai fait l'école Et j'ai fini le lycée dans la dictature. Je parle un tout petit peu de ça, de ce que c'était être enfant ou adolescent, encore au foyer, encore sous la tutelle des parents. Pas d'être jeune, d'avoir 18 ou 20 ou 22 ans, mais d'avoir 12, 13, 14 ans. Je parle un peu de ça dans un roman qui s'appelle « L'ombre du boxeur ». Et à cette époque-là, pour nous, pour les jeunes, le tango était... On va pas dire que c'était l'ennemi, parce que ça serait bête. Mais c'était un peu le discours officiel. En tout cas, le mauvais tango qui était mis en valeur par les militaires. Le tango le plus rétrograde, le tango qui était critique même du nouveau tango, le tango qui critiquait Piazzolla, le tango qui critiquait le côté des, le tango qui voulait être toujours le même, sans changer. Et pour nous, le tango était la gomine, c'est-à-dire la gomine. Pour nous, le tango, c'était un modèle masculin très, très traditionnel. Bien sûr, on voyait que les stéréotypes, mais c'est ce que nous montrait la télévision aussi. La télévision montrait un stéréotype, le mauvais stéréotype du tango.
C'était le discours officiel.
Oui, voilà. Alors nous, on préférait ce qu'on appelait le rock argentin. Le rock argentin n'était pas du rock. Le rock argentin était plus semblable au phénomène qu'il y a eu au Brésil avec le tropicalismo, avec Caetano Veloso ou Gilberto Gil. C'est-à-dire prendre des instruments électriques et prendre l'influence de Beatles et prendre l'influence de la culture d'après-guerre au service d'une musique qui a des racines très fortes et des liens très forts avec le tango et le folklore argentin. Si on entend le tout premier disque d'Almendra, qui a été le groupe qui pourrait être considéré le Beatles argentin, il y a deux morceaux avec du bandoneon. C'est-à-dire il y avait des couleurs du tango, mais d'une façon différente. Et nous, on aimait ça parce que... Bon, d'abord parce qu'on était, on était dans le besoin de trouver un discours contre la dictature. Et ces gens-là fessaient surtout des paroles, des chansons avec des allégories qui disaient tout ce que personne ne disait pas à cette époque-là. Bon, ce n'était pas les seuls. Il y avait Mercedes Sosa, il y avait Atahualpa Yupanqui, il y avait des gens qui faisaient ça du point de vue de la musique populaire. Mais pour nous, ces gens-là étaient vraiment nos guides, si on peut dire comme ça. Et avec le temps, il y a eu surtout, je dirais, fin des années 80 et surtout le début des années 90, il y a eu la grande réconciliation entre notre génération et le tango, et vice-versa, je pense aussi. Mais je pense qu'aussi, pour ça, pour arriver à ça, il fallait que la dictature tombe, et heureusement, elle est tombée, et il fallait aussi que le mauvais tango, le tango le plus rétrograde, laisse la place aux gens qui étaient en train de faire des choses les plus intéressantes. Bien sûr, Astor Piazzolla, c'est le nom le plus connu, mais il y avait des noms moins connus à cette époque-là. Je pense surtout à Horacio Salgan, qui était un peu notre Bill Evans, non, que notre grand pianiste, qui a fait des choses qui étaient mal vues par les conservateurs du tango. Par exemple, il a créé un duet piano et guitare avec un musicien qui s'appelait Ubaldo de Lio. Je vous conseille d'écouter ça. C'est un bijou, Salgan de Lio. Il y a des disques à deux. Et Delio jouait une guitare. Il ne jouait pas une guitare électrique. Mais face au piano, il devait amplifier la guitare, parce que sinon le piano bouffait la guitare. Personne n'allait entendre la guitare. Alors, lui, Delio, qui jouait les guitares traditionnelles, mais bon, c'était une guitare amplifiée, il branchait la guitare. Et dès qu'il branchait la guitare, les gens disaient « Ah, le traître !» Les arriérés, je veux dire, du tango, non ? Et cette génération-là a dû se battre contre tout ça. Et je pense que cette génération-là, des gens comme Roberto Goyeneche, qui était le grand chanteur des dernières années, on fait le pont, on fait le lien entre notre génération et le tango. Grâce à eux, on a eu le pont. Piazzolla, dans les années 77-78, il entendait Chick Corea, il a entendu le jazz rock, il a entendu ces musiciens-là, il a voulu faire une chose pareille, et il est allé chercher des musiciens dans les groupes de rock de l'Argentine. Et ces musiciens-là sont maintenant des musiciens de tango, même. Et quelqu'un d'eux habite ici. Tommy Gubich habite à Paris. Ce sont des musiciens qui n'étaient pas dans le tango orthodoxe. Je ne sais pas. Je me suis un peu perdu, mais... Je parlais un peu des années 90.
Et c'est à ce moment-là que vous avez eu une expérience particulière, oui, au niveau journalistique, je crois.
Ah oui. Au milieu des années 80, si on arrivait en Argentine et on cherchait le tango, il était là, parce que le tango est toujours là. Mais il n'était pas si visible, si palpable comme aujourd'hui. Il fallait le chercher. Et 10 années plus tard, au milieu des années 90, le tango était de nouveau présent. Et je pense que là, il y a eu, de la part des générations plus jeunes, une tâche très importante. Une chose très révélatrice, c'est qu'au début des années 90, une radio a été créée en Argentine dédiée que au tango. Ça n'existait pas avant. C'est incroyable, mais ça n'existait pas. Bon, il y avait bien sûr... beaucoup de gens qui passaient du tango qui jouaient du tango à la radio, mais il n'y avait pas une radio que de tango. Et ces gens-là qui ont inventé ça, c'était des gens qui venaient du monde du rock argentin. Sont quatre personnes qui ont créé ça, et une personne des quatre était un batteur dans un groupe de heavy metal argentin. Mais lui, il a créé cette radio. Et moi, à cette époque-là, je faisais des documentaires à la télé sur l'histoire du rock en Argentine, un peu de la musique populaire. Et ces mêmes gens-là ont créé, quatre ans plus tard, 94, une chaîne de télé dédiée au tango. Et ces gens-là ont venu me chercher pour dire, est-ce que tu... aimerais faire la même chose, des documentaires, mais sur l'histoire du tango pour nous. Et j'ai dit, oui, j'aimerais bien, ce serait un rêve, mais je ne connais pas trop. Et ils m'ont dit, bon, mais tu sais faire les documentaires, on va mettre à côté de toi quelqu'un qui connaît du tango et vous allez travailler ensemble. Ils ont mis à mon côté quelqu'un de très, très jeune, qui s'appelle Gabriel Soria, et qu'aujourd'hui, il est le président de l'Académie du tango en Argentine. Il vient de succéder Horacio Ferrer, qui est mort. Ferrer, vous savez, c'était le parolier de Piazzolla, qui est mort il y a quelques mois. Et Gabriel est maintenant le président de l'Académie du tango. C'est quelqu'un qui a 40 ans, même moins. Et avec lui, c'était une équipe, on a fait beaucoup d'entretiens. On allait interviewer les gloires du tango. Et ça a été très touchant parce que ils avaient 80, 85, 90 ans. Et dans quelques cas, ils étaient assez oubliés. Dans quelques cas même, ils vivaient dans un état un peu de pauvreté, même s'ils avaient été célèbres. Et pour moi, c'était très touchant aussi. C'était très... c'était une leçon de... Je venais d'interviewer les stars du rock argentin qui se croyaient John Lennon. Et deux, trois ans plus tard, j'étais reçu par des gens qui avaient été vraiment des stars et des gens très importants et qui nous recevaient avec des sandwichs, du maté, Coca-Cola, comme des amis. Et c'était incroyable la différence. Ça, c'était... Et dans plusieurs cas, c'était les derniers entretiens qu'ils ont donnés. Et parfois, des liens se sont tissés. Il y avait, je me souviens surtout d'un chanteur qui s'appelait Héctor Pacheco, qui avait été chanteur d'une des orchestres de tango les plus connues, l'orchestre de Fresedo. Et il avait été une gloire dans les années 40 et 50. Et je ne sais pas, on est devenus un peu amis, si on peut être amis avec cette différence d'âge. Mais il venait nous visiter deux, trois fois par mois où on travaillait. Il venait parfois avec des medialunas, non, avec des croissants. Et on allait prendre un café et on parlait. Et c'était une leçon de vie, tout ce qu'il racontait. Et les anecdotes qu'il racontait, c'était incroyable. C'était très littéraire, parce que toutes les anecdotes étaient incroyables. Par exemple, je me souviens qu'il m'a raconté, il venait d'un petit village de l'Argentine, et il venait d'arriver, il était chanteur, il voulait être chanteur de tango, et je ne sais pas comment, il a eu un lien avec Fresedo. Et Fresedo était c'était un peu l'orchestre de los pitucos, je veux dire, c'était un peu le tango pour la high class à Buenos Aires, Fresedo, c'était le barrio norte. Mais lui, il avait eu un contact avec Fresedo, alors Fresedo lui invite, il va faire un essai. Et Fresedo vivait dans un bâtiment au centre de Buenos Aires, mais pour aller voir Fresedo, il devait prendre l'ascenseur. Mais il ne savait pas comment l'ascenseur il marchait. Alors il est resté une demi-heure jusqu'au moment où quelqu'un est entré et a pris l'ascenseur et lui a accompagné chez Fresedo. Parce qu'il lui a vu là, et vous allez où? Bon, tu vas où? Parce que je vais voir M. Fresedo, viens avec moi, je vais te conduire. Et tout le temps, il y avait des histoires comme ça, très très touchantes. Et voilà, et moi j'ai travaillé pendant 4 ou 5 ans en faisant ça. Au début, on faisait des entretiens un peu individuels. Et à un moment venu, on a eu 120, 130 entretiens. Et avec ça, on a commencé une deuxième étape à faire des documentaires plus complexes, des thématiques. Et on mélangeait, on avait une base d'entretiens et on mélangeait tout ça. Il y a encore des...
On peut trouver, en
Internet, YouTube, des liens comme ça, on peut trouver tout ça. Et c'était une expérience fascinante pour moi, vraiment.
Est-ce qu'on peut dire que ces rencontres ont influencé une de vos nouvelles ou quelques-unes de vos nouvelles?
Non, une nouvelle sans doute. Dans mon livre, non, c'est pas celui-là. Dans mon recueil de nouvelles qui s'appelle L'Inoubliable, il y a une nouvelle qui s'appelle Forme d'oubli, où je raconte l'histoire d'un musicien de tango qui est en train de jouer et au milieu d'un concert, il oublie tout. Il oublie. Il oublie tous les morceaux qu'il a écrits pendant sa vie. Il oublie même comment on joue le tango. Il oublie tout. Il reste en suspense comme ça, les mains en l'air. Et à partir de... Je ne vais pas raconter la nouvelle, mais à partir de ça, il y a un autre personnage qui est un musicien de tango qui avait été une gloire et qui est maintenant totalement oublié. Et c'est une nouvelle qui parle beaucoup de l'oubli dans plusieurs sens, de l'oubli d'un musicien qui pourrait, par un phénomène un peu bizarre, oublier la musique, mais aussi de l'oubli du public, des artistes qui sont oubliés. Et que c'est une chose que j'avais vue directement avec ces gens-là. Des gens qui étaient des célébrités, maintenant étaient oubliés. Il y avait des gens qui n'avaient pas de problème avec ça, qui géraient très bien tout ça, même se sentaient libérés. il y avait des gens qu'on sentait qu'ils avaient une nostalgie de ça. Et que même si on était dans un café, il y avait un vieux garçon qui s'approchait et qu'il l'avait reconnu. Pour lui, c'était comme une source d'énergie, peut-être pour un an de plus, ces petits gestes. Et ça, tout ça, c'était très touchant. Et oui, et cette nouvelle a été née de ça. Mais en fait, je me suis rendu compte après. Au début, j'ai eu l'idée de l'oubli, de ce musicien-là qui oublie. Et au fur et à mesure que j'écrivais, j'ai compris que ce n'était qu'une simple métaphore de beaucoup de choses que j'avais vécues. En faisant ces entretiens.
Oui. En parlant de métaphore, justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'est-ce que le tango dit de l'Argentine? Qu'est-ce que le tango dit des mythes de l'Argentine?
Moi, je trouve que le tango est très révélateur, c'est très symptomatique de l'Argentine, non? D'abord, il y a une chose qui me frappe toujours, c'est que en Argentine, on a eu surtout une grosse influence d'une vague d'immigration italienne et espagnole. Bon. Il y a eu aussi d'autres vagues d'immigration, et on a eu aussi la population indigène, mais c'est vrai que les bateaux venaient surtout de l'Italie et de l'Espagne. Et on dit toujours qu'on parle l'espagnol avec la musique italienne, avec une cadence et même la gestualité italienne que je ne peux pas arrêter de faire. Et moi, je trouve très, très révélateur qu'en faisant ces documentaires du tango, je voyais que la plupart des chanteurs de tango ont des noms de famille espagnols. Et même ceux qui ne l'ont pas, choisissait des pseudonymes espagnols. Par exemple, Alberto Castillo avait un nom italien. Et Alberto Marin avait un nom italien, mais il le cachait. Pour chanter, il choisissait des noms espagnols. Par contre, les chefs d'orchestre ont tous des noms italiens. Et je trouve que c'est très symptomatique. C'est la langue bercée par la musique italienne. C'est la langue espagnole bercée par la musique italienne. C'est un peu simple, mais il y a quelque chose de ça. Et aussi, je trouve que le tango argentin est plein de petites légendes. Et je trouve que, par exemple, la légende de l'arrivée du bandoneon, qui est tellement belle que c'est vraiment dommage de dire qu'elle est fausse, parce qu'elle est hyper belle. Mais vous savez que le bandoneon est un instrument inventé en Allemagne par un monsieur qui s'appelait Band, et qui était un instrument pour des processions religieuses. Et en fait, on le portait comme ça pour des processions religieuses. Bon, en tout cas, c'était prévu pour ça. Et la légende, le mythe, veut qu'un marin allemand est descendu au port de Buenos Aires et a oublié un bandoneon. Et que quelqu'un a pris ce bandoneon et l'a pris d'une autre façon, d'une façon pagane, on peut dire, d'une façon non religieuse. Et il a mis ça d'une autre façon, il a mis ça sur ses cuisses et a fait une musique différente. Et je pense que on dit tout le temps que les Argentins, nous venons des bateaux, et c'est beau de sentir que le tango aussi, il vient de bateaux. Il est descendu d'un bateau, en tout cas, l'instrument du bandoneon. Et aussi, je trouve que c'est très révélateur de savoir que le bandoneon, qui est l'emblème du tango, il est arrivé un peu tard au tango. De la même façon que le saxophone, qui est l'emblème du jazz, est arrivé un tout petit peu plus tard. C'est-à-dire dans les agrupations de Guardia Vieja de tango, il n'y avait pas le bandoneon. Il y avait flûte, guitare. Le tango est arrivé un tout petit peu avant, après. Un tout petit peu après. Et bon, ce sont des petits détails comme ça qui métaphorise pas mal, je pense, l'identité argentine, non? Le fait de faire une musique qui est un peu européenne, qui veut être un peu européenne, comme nous, Mais dès qu'on dit que le tango a des racines noires, il y a un côté de la société argentine qui dit non, se rerisse un peu. Et il a des racines noires, surtout la milonga, sans doute. Mais des racines noires, des rythmes noirs aplatis par la pampa, on dirait, non ? Par le vertige horizontal, comme disait Dreher La Rochelle, de la pampa. Et tout ça, oui, ce sont peut-être des métaphores de l'Argentine. Oui. C'est intéressant de faire aussi le parallèle entre le jazz et le tango. Parce que je pense que ce sont deux musiques qui correspondent à l'âge d'or de la radio, des musiques liées à la naissance du cinéma sonore, Al Jolson et Gardel, de musiques qui ont souffert la décadence des grandes agrupations et qui ont dû se réinventer un peu à partir des années 50 avec des formations plus petites. Il y a des parallèles qu'on peut faire aussi. Oui.
Au niveau de tout à l'heure, donc vous évoquiez votre nouvelle Forme d'oubli qui fait partie donc d'un recueil de nouvelles, L'Inoubliable. Alors que moi j'ai lu avec beaucoup de plaisir, on retrouve beaucoup de quotidien et en même temps tout un côté un peu fantastique, fantasmagorique. Parlez-nous un peu de cet aspect-là de votre écriture qui est.
Moi, j'aime bien l'idée de mélanger le quotidien et le fantastique. Je pense que c'est une tradition quand même en Amérique du Sud et surtout dans ce qu'on appelle le fantastique du Rio de la Plata, de travailler un peu avec le non avec le fantastique foisonnant, mais avec un petit détail un peu décalé dans un univers qu'on reconnaît plus ou moins facilement. Un peu dans cette idée de l'étrangeté dont parlait Freud, non, quand il parle de lo sinistro, non, de l'étrange dans le contexte de choses connues, dans le contexte de choses familières. Mais je pense que ça, c'est devenu un peu une tradition aussi chez nous. Il y a des écrivains qui font ça très, très bien, qui ont fait ça très, très bien. Je pense, bien sûr, à Cortázar. C'est l'exemple le plus connu. Mais Silvina Ocampo, Juan José Hernández, des écrivains un peu moins connus, peut-être. Mais je ne pense pas non plus que ce soit une tradition seulement argentine ou seulement latino-américaine. Quand je lis Marcel Aimé, je retrouve quelque chose de cet univers-là, mm-hmm. ou quand je lis Dino Buzzati, peut-être c'est un héritage un peu kafkien. Bon, c'est vrai que j'ai un penchant à faire ça surtout dans mes nouvelles. Peut-être mes nouvelles sont un peu plus classiques de ce point de vue-là. En tant que lecteur, j'aime tout. J'aime le réalisme, j'aime l'imagination hyper loufoque. J'aime tout, je suis très ouvert. Mais en tant qu'auteur, c'est vrai que j'aime pas ni le réalisme sociologique, documentaire, qui ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination. Un réalisme plus proche à l'idée du naturalisme, je ne sais pas. Et j'aime pas non plus le fantastique absolument gratuit ou loufoque qui ne métaphorise pas des choses de la vie, de l'âme humaine, si on peut dire comme ça. J'aime quelque chose entre les deux. Et dans mes nouvelles, je pense que ça se voit, même si c'est mal fait, je ne sais pas. Mais ça se voit, en tout cas, l'intention de travailler dans les deux sens. Oui, j'essaye en tout cas de faire ça. Oui.
Et si vous nous parliez de votre dernier roman, donc Le Pays Imaginé, où là le cadre est loin de l'Argentine, je crois.
Oui, c'est l'antipode. La Chine est le pays le plus loin géographiquement de l'Argentine. C'est l'antipode. On nous a toujours appris que si on creusait un trou, on arrivait en Chine. Je ne pense pas qu'on arriverait, mais on peut essayer. Et avec ce livre-là, j'ai essayé de créer un peu un livre antipode. Je parle d'une Chine qui est imaginée, comme le titre le dit. Je parle aussi d'une autre époque, du début du XXe siècle. Je parle pour la première fois, j'écris du point de vue d'une première personne féminine. C'est un peu un livre antipode. Mais la Chine est un peu une excuse, une belle excuse, un cadre très singulier pour parler des choses très universelles. Le livre parle des liens de famille, d'amitié, d'amour, des choses qui sont très universelles, mais dans un cadre très singulier. Ça, c'était un peu aussi une chose qui m'intéressait. Peut-être c'est une autre façon de sortir du réalisme aussi, de faire un roman qui... Peut-être je sentais que j'allais trop vers le réalisme avec l'histoire que je voulais raconter, et je me suis dit, bon, je laisse mon côté d'imagination, je le laisse dans ce cas-là, je le dépose surtout dans le cadre. Parce que c'est vrai qu'il y a, cœur du roman très réaliste, hein, que ce sont les rapports de famille. Disons que tout ce qui se passe dans la maison ou dans le huis clos du roman, ça pourrait se passer nulle part. Bon, presque. Mais tout ce qui passe autour, ailleurs, non, c'est plus particulier. C'est pas de l'universel, ça. Et peut-être aussi parce que, je ne sais pas, j'ai eu toujours le dépaysement, c'est une chose qui m'a toujours été un peu proche. Je viens de dire qu'on est une, surtout Buenos Aires, non, une ville faite d'immigration. Une ville où il y a eu un moment où on a failli presque basculer vers l'italien comme langue. C'était vraiment un petit Babel, Buenos Aires, à un moment. Je n'ai pas vécu ça, j'aurais bien aimé avoir vécu ça, non ? Années 20, années 30, où on entendait... Tout le monde raconte qu'on entendait parler tous les accents. C'était vraiment passionnant. Et moi, chez moi, mon père était étranger. À une époque où c'était un peu plus rare. La plupart des amis avaient des grands-parents étrangers. Mmh. Mais moi, j'avais mon père qui était étranger. Et après, j'ai vécu l'expérience du dépaysement ici en France. Et c'est vrai que quand on voit ça, quand on grandit avec un étranger chez soi, et quand on fait l'expérience d'habiter à l'étranger, et même aujourd'hui d'avoir un enfant... Avoir un fils qui, bon, Ricardo, tu as la même expérience que moi, qui grandit dans une autre langue. Ce sont des choses très fortes. Et ce sont des choses qui font basculer des idées reçues, non ? Alors moi, c'est très difficile, après à vivre tout ça, de ne pas être ouvert à l'idée de diversité ou de ne pas être intéressé à l'idée des autres edades, je ne sais pas comment dire ça en français, des choses différentes, des choses peuvent être de l'autre.
L'altérité,
voilà, c'est ça. Mmh. Et quand j'étais en Chine, pourquoi la Chine ? Je suis arrivé un peu par hasard en Chine et j'ai passé un mois et demi la première fois. Je suis retourné après. Et j'étais. C'était fascinant, le dépaysement en Chine. Parce que même des choses qu'on aurait tendance à croire que ce sont naturelles, comme le fait que pour énumérer le compter, nous, on fait 1, 2, 3, 4, 5, on continue, 6, 7, 8. Et on dirait que c'est normal, que c'est naturel. Et même ça. Les Chinois, une fois qu'ils arrivent à 5, ils commencent à faire 6, 7 avec une main. Alors, c'est très révélateur de voir ça, que des choses, même les choses qu'on croirait les plus naturelles sont culturelles. Et je pense que pour un écrivain aussi, c'est difficile de ne pas être intéressé à tout ça, parce que je pense que moi, j'aime bien l'idée que de la littérature qui nous... de la fiction qui nous rappelle que les choses peuvent et pourraient être différentes. Et un pays comme la Chine nous rappelle tout le temps que les choses peuvent être différentes. Et que quand même, dans ces différences, il y a des choses universelles. Il y a des regards ou des choses où on se reconnaît. Et on peut, je pense que de tout ça est né, mais sans aucune théorie, tout ça je le dis maintenant, mais quand on écrit un livre, on écrit un roman, on n'a pas tout ça dans la tête. On écrit une histoire. Et après on se rend compte, au fur et à mesure qu'on avance, des choses qu'on est en train de faire. Moi, j'avais déjà écrit la moitié du roman quand j'ai eu l'idée du pays imaginé comme titre du roman et aussi l'idée du pays imaginé comme titre... comment dire ? Comme symbole du livre, parce que l'idée de pays imaginé ne s'arrête pas à la Chine, c'est... Pour la grand-mère de la narratrice, le pays imaginé, c'est la mort. Alors, il y a plusieurs pays imaginés dans ce livre-là.